Eh bien, je suis devant un des nombreux stands aux couleurs noires et jaunes. Cette fois-ci, donc Cigéo Bure Jamais. Et donc, on est devant le collectif qui s'appelle
Bure Stop et le
Cédra.
Bure est dans la Meuse et c'est le projet Cigéo, c'est le grand projet d'enfouissement des déchets nucléaires. Voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce projet ? C'est quoi ?
Alors, Bure n'est pas seulement dans la Meuse, c'est vrai qu'il est, il est sur le territoire du département de la Meuse, mais c'est quand même un projet qui est aux confins de trois départements, la Meuse, la Haute-Marne, concernée également par le stockage en souterrain, et puis les Vosges qui sont tout près, à quelques kilomètres. Voilà. Alors, le projet CIGEO, Centre industriel géologique, c'est un projet qui consiste à enfouir à 500 mètres sous terre les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue qui sont produits en fait par l'ensemble du parc électronucléaire français. Donc c'est comme si on voulait enfouir tout ce qui sort des centrales nucléaires chaque jour, eh bien, on voulait les concentrer en un seul point, qui est le projet CIGEO.
Alors, ce que tu décris comme type de déchets, c'est que ce seraient des déchets qui sont à la fois les plus dangereux et ceux qui mettent le plus de temps à se dégrader.
Voilà, on n'est pas sur des déchets de faible activité, vie courte ou vie longue d'ailleurs, mais on est sur du vie longue pour les deux et on est sur du moyenne et haute activité à vie longue. Et haute activité, si on voulait prendre une image, quelques grammes de plutonium, ça peut vous crucifier rien qu'à les regarder, quoi, en gros. Hein, si on, voilà. Donc,
ce seraient des déchets qui seraient donc préparés avant d'être enfoui.
Alors, ces déchets viendraient de toute la France, viendraient de La Hague, par exemple, où on est aujourd'hui, viendraient également de la vallée du Rhône. Et l'idée, c'est effectivement de les acheminer donc d'un certain nombre de sites de production ou de stockage, plutôt disséminés en France, et puis de les amener en ce point central que serait le territoire meusien et haut-marnais.
Alors, tout l'enjeu de ce projet, si j'ai bien compris, c'est que les déchets nucléaires, tu as parlé de La Hague, ils ne sont pas stockés à La Hague. Et la question, c'est que sur ces vies longues notamment, il faut savoir en faire quelque chose. Et actuellement, on ne sait pas en faire autre chose que les enfouir.
Alors, il n'y a pas beaucoup de déchets dont on sait faire quelque chose, déjà. Hein, alors après, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de matières, ce qui est appelé en fait matière, qu'il est possible de recycler, notamment par exemple pour fabriquer du MOX. Mais en dehors d'une petite quantité de déchets qui ensuite va être reconvertie en combustible nucléaire, la quasi-totalité du reste, même s'il est considéré actuellement encore quelquefois comme un matériau valorisable, n'en est pas un et finira un jour peut-être dans un trou comme celui qu'on envisage à Bure.
Alors pourquoi Bure ? Et est-ce que le fait que ce territoire aux confins, tu as dit, de la Haute-Marne et de la Meuse, pourquoi là-bas ? Pourquoi ils ont jeté leur dévolu sur cet endroit de l'est de la France ?
Alors, en fait, ça fait très longtemps qu'on cherche un site. On avait envisagé plusieurs solutions, un site dans l'argile, un site, pourquoi pas dans le granit. Mais en fait, avant même qu'on choisisse le site de Bure, on avait exploré pas mal de sites dans l'Ouest, dans le Gard, dans la Meuse. Et en fait, il faut se dire qu'il y a des régions qui sont très peuplées et donc qui ne sont pas considérées forcément comme des régions faciles à convaincre. Et puis il y a des régions comme la Meuse et la Haute-Marne qui sont des régions très dépeuplées où la densité humaine au mètre carré n'est quand même pas, au kilomètre carré n'est pas forte. Et donc malgré un acharnement et une lutte sans faille depuis presque 30 ans, en fait on n'a jamais réussi à faire de cette question de l'enfouissement au démarrage une question qui concerne l'ensemble des Français. C'est resté longtemps l'affaire des départements qui étaient convoités. Et puis maintenant que, effectivement, le projet de Bure est connu au niveau national, on se rend compte que, effectivement, ça ne concerne pas notre territoire à nous. Ça concerne bien l'ensemble de la filière nucléaire. Il faut se dire que si la filière nucléaire ne trouve pas une solution définitive pour ses déchets, on sait que, de toute façon, elle meurt de constipation. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, lutter à La Hague, lutter dans le Gard, lutter dans la Meuse, c'est convergent pour empêcher le nucléaire de repartir sur une nouvelle filière. Quoi.
Alors on comprend bien que cette question des déchets, évidemment, une des questions, sinon la question centrale de la question nucléaire, qu'elle est plus ou moins urgente pour ces acteurs actuellement. Et pour autant, là, actuellement, à Bure, on n'enfouit pas encore. Qu'est-ce qu'il y a actuellement à Bure ? On est à l'expérimentation, ça prend quelle forme ?
Alors en fait, à Bure, en ce moment, il n'y a rien. Il y a juste un laboratoire de recherche. Et il n'y a pas de déchets radioactifs. Ça, il faut vraiment que les gens le comprennent. Ça reste à l'état de projet. Par contre, le processus avance, on pourra en reparler. On est quand même sur une dernière ligne droite. Mais actuellement, il y a, quelque chose comme peut-être 3 km de galerie expérimentale, alors qu'on envisage 300 et quelques kilomètres de galerie, plus que le métro parisien.
Oui, donc il faut imaginer du coup que ce site d'enfouissement, c'est pas un site en fait, ce serait un espace qui en fait, en termes de surface profonde, on pourrait dire, est très très grand en vérité. Enfin, on s'y déplace en véhicule.
Alors, ce serait en fait, il y a en surface déjà, ce serait un site nucléaire, une installation nucléaire de base, donc qui, à partir du Bois-le-Jus, qui est comme peut-être connu d'un certain nombre de personnes maintenant, puisqu'il a été occupé longtemps. En fait, on a des puits d'accès donc à un stockage en souterrain. Et puis, sur le territoire de la Haute-Marne, à partir du village de Saudron, il y aurait une descenderie qui acheminerait donc les colis vers le fond.
Voilà. Une rampe d'accès, en fait.
C'est une rampe d'accès donc, qui donne accès à des galeries. Serait extrêmement longue. On parle de galeries de 150 mètres de long et qui elles-mêmes donnent accès donc, à des alvéoles de part et d'autre qu'on viendrait donc combler avec des déchets rebouchés, etc.
Et là, ce qu'ils expérimentent actuellement, c'est est-ce que l'argile correspond ? Est-ce que ça tient ? C'est quoi qu'il faut comme recherche du coup ? Qu'est-ce qu'il faut vérifier avant d'enfouir ?
Alors en fait, il y a beaucoup de choses à vérifier. Il y a d'une part que la roche d'accueil soit en capacité de confiner la radioactivité. C'est pour ça qu'on a écrit un livre qui s'appelle CIGEO, coffre-fort, démystifier le mythe. Parce que pour nous, en fait, la roche d'accueil n'est pas du tout homogène comme on l'a prétendu au départ. Elle est homogène sur une petite épaisseur, mais au-dessus et en dessous, elle est hétérogène et elle a des capacités de confinement qui ne sont pas à la hauteur.
Oui, il va falloir que, en fait, l'idée, c'est qu'enfouir en profondeur fait que les radiations n'iraient pas à la surface. C'est ça l'idée, hein.
Oui, c'est l'histoire du coffre-fort fictif qui serait en capacité de confiner la radioactivité. Mais en fait, ça n'existe pas. Même dans un sous-sol argileux, argilo-marneux, etc., comme chez nous, en fait, l'eau circule. Donc, il y a de l'eau qui peut arriver dans le stockage et il y a aussi de l'eau qui sortira du stockage. Donc, en fait, les capacités de confinement, c'est extrêmement important.
Oui, je voudrais rajouter qu'au cours des nombreuses années où l'État, pendant lesquelles l'État a cherché différents endroits pour enfouir, se débarrasser de ces déchets radioactifs, il a cherché à différents endroits, le granit, je ne sais pas quelles autres roches, je ne me souviens plus. L'argile, voilà. Et vu la protestation un peu partout en France, les déchets arrivent chez nous dans un sol donc, qui est argileux. Mais ils auraient pu débarquer ailleurs. En fait, le plus grand intérêt qu'a eu l'État d'installer ça chez nous, dans le Grand Est, c'est la petite proportion de population, comment on appelle ça, la démographie, qui était très intéressante et qui permettait de limiter la contestation face à ce projet.
Ce qui veut dire, si je vous comprends, que le choix d'arrêter l'enfouissement à Bure ne serait pas tant une question géologique qu'une question en fait sociale. C'est-à-dire qu'il fallait la bonne population au bon endroit, on pourrait dire, ou précisément une population très faible, et que c'est ça le déterminant.
Je pense que ça a été un grand déterminant, effectivement.
Alors ce projet-là, donc on dit qu'il est à la phase du laboratoire, mais pour autant, ce laboratoire, il tourne, et donc là, à Bure actuellement, il y a déjà une certaine activité, c'est-à-dire qu'il y a des chercheurs sur place, il y a tout un ensemble déjà d'activités qui sont liées au nucléaire déjà sur place.
Alors, il y a surtout une activité qui est liée au BTP. Parce qu'en fait, c'est un immense chantier BTP et il faut s'assurer que l'ANDRA doit s'assurer qu'elle est en capacité de construire des galeries, de faire que les galeries ne s'effondrent pas, parce qu'on sait de toute façon qu'à terme, elles s'effondreront, mais en même temps, ne s'effondrent pas là actuellement sur les gens qui travaillent sur le chantier. Donc, c'est pas seulement... Il y a effectivement des expérimentations sur le plan de la radioactivité, sur le plan des circulations d'eau, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'expérimentations pour, par exemple, voir comment on attaque la roche plus ou moins rapidement, plus ou moins abruptement, comment on protège ensuite avec des voussoirs, c'est-à-dire une sorte de coffre en béton qui permet que la galerie ne s'effondre pas sur ce qu'on veut y mettre, etc. Donc c'est à la fois un chantier BTP et un chantier aussi de recherche sur ce que deviendraient à l'avenir ces déchets dans les galeries.
Ce qui veut dire, si j'ai compris, que en fait, l'expérimentation est une expérimentation à l'échelle 1, en fait. C'est-à-dire que c'est pas en plus petit quelque part, c'est qu'en fait on le fait vraiment en vrai et on regarde ce que ça donne, c'est ça, hein.
Alors, c'est pas tout à fait ça. Là, pour l'instant, on est plutôt à l'échelle zéro. C'est-à-dire qu'en fait, on est à une toute petite échelle. Je vais vous donner un exemple qui est assez parlant. C'est qu'au bout d'un kilomètre 7 de galerie, il y a eu un effondrement qui a fait un mort et un blessé grave. Et tout simplement parce que... Enfin, tout simplement non, mais on était sur une galerie orthogonale, donc une galerie à angle droit. Et en fait, il faut savoir qu'en sous-sol, on est soumis aussi à des poussées géologiques. Et c'est cet ensemble qui a fait que l'ANDRA a été surpris que la galerie s'effondre. Donc quand on a un accident grave au bout d'un kilomètre sept de galerie, on imagine l'expérimentation qu'il faut faire sur un chantier comme celui-là, quoi.
Au-delà de ces infrastructures qui vont permettre de mettre en œuvre ce projet, en fait, c'est une région qui est en train d'être nucléarisée, on pourrait dire, avec d'autres projets nucléaires, soit en cours, soit qui sont en projet. Enfin, voilà, il n'y aurait pas que CIGEO, en vérité.
Voilà, oui. On aime bien rappeler quand même un de nos combats antérieurs, qui est l'essai d'empêcher l'implantation du stockage en surface et subsurface à Soulaines et ensuite Morvilliers. Et il y a d'autres installations qui sont prévues à l'avenir dans cette région, qui est à la limite de la Haute-Marne et de l'Aube cette fois, de l'autre côté de la Haute-Marne. Et donc on a quand même certaines expériences jusque-là de lutte contre la nucléarisation de notre territoire. Pour un certain nombre d'entre nous, c'est une forme de colonialisme. Faut dire les choses.
Au sens où on impose un projet à des gens qui ont demandé, c'est ça ?
mondiale, tout à fait.
Et de ce que vous me disiez, il y a plus largement, dans les projets de nucléariser cette région, il va falloir former des gens aussi, quoi. Et là, le territoire se prépare.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a promis, en fait, aux élus beaucoup d'argent. Alors, c'est vrai que par l'intermédiaire du groupement d'intérêt public Meuse et Haute-Marne, les élus reçoivent 30 millions d'euros par an, hein, chacun, donc dans les deux départements. Et on a promis des emplois, etc. Et donc, au fur et à mesure que cet argent est investi dans le territoire, il est investi non pas pour un développement qui ne serait éventuellement pas nucléaire, il n'est investi que dans du nucléaire. Donc, c'est pour ça que Elisabeth parlait en fait de nucléarisation et de colonisation du territoire. Et puis pour ça, on forme des jeunes, notamment des BTS de maintenance ou dans la sécurité nucléaire, donc à la fois dans les lycées, enfin dans un lycée de Meuse et un lycée de Haute-Marne.
Pour préparer les emplois futurs, parce que il est acquis qu'en fait, ça va se faire et qu'il va falloir les emplois qui vont avec. Ils prennent les devants.
Oui, alors dans le nucléaire, il y a beaucoup de bluffs, mais quand même, c'est vrai que là, le projet avance. On pourrait considérer qu'il est acquis, mais moi je considère qu'il n'est pas plus acquis que n'importe quel autre projet, parce qu'en fait pour faire ça il faut une masse d'argent considérable, et puis on est dans un contexte géopolitique où en fait ça change énormément. On voit bien ce qui s'est passé avec la crise énergétique, avec la menace sur les centres, enfin, sur les sites nucléaires avec la guerre en Ukraine, par exemple. Donc dire que le projet CIGEO est un projet acquis, ben pour nous déjà, c'est une aberration, parce que la somme des points qu'on a soulevés sur ce projet devrait trouver des réponses, et actuellement, ils ne les ont pas. Les études qui ont été demandées sur un certain nombre de sujets n'arriveraient qu'après l'autorisation de construction, ce qui est quand même complètement aberrant. Voilà, donc... Je trouve que ce projet a plus de côté négatif que de côté positif. Et même les élus commencent à se rendre compte que l'argent, ce n'est pas éternel. Bah là, ça baisserait. À partir du moment où on construirait le projet, ils auraient moins d'argent. Voilà. Et puis les emplois, ils ne sont pas au rendez-vous. On n'a pas désenclavé la campagne. On n'a pas apporté... les promesses n'ont pas été tenues. Voilà.
Alors ici, donc vous êtes dans le collectif qui lutte contre ce projet. Alors on lutte comment contre un projet comme celui-ci ? Qu'est-ce qu'on fait face à ces projets absolument énormes et soutenus par l'État ?
Eh bien, entre autres, par exemple, puisqu'on est ici dans le Cotentin, on rejoint d'autres personnes qui luttent contre le nucléaire et qui organisent des manifestations et des rassemblements de manière à interpeller autour de nous. Donc on fait également des stands partout en France, autour de nous. On essaye de communiquer, et on a des initiatives. Il y a beaucoup d'initiatives à la Maison de la Résistance qui apportent plein de choses qui enrichissent vraiment le débat et les échanges. Et c'est vraiment des moments très intéressants et très importants pour la lutte.
Alors, il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est toute l'étude des dossiers. Alors, suivant en fait les personnes qui militent contre ce projet, nous, Burstop et Cédra, par exemple, on va beaucoup plus travailler sur le fond. On va travailler beaucoup sur l'information et la communication, sur le décryptage, l'expertise des dossiers. Mais c'est vrai que sur le terrain autour de Bure, il y a toute une lutte qui en fait bénéficie énormément d'apports extérieurs, de personnes qui sont dans des collectifs de lutte et qui ont compris que ce projet était un projet extrêmement important pour l'ensemble du pays et l'Europe. Et donc, ça se traduit différemment, je dirais, par une implantation qui devient... Les gens viennent habiter localement. Il y a une lutte acharnée aussi pour essayer d'entraver le projet de manière à ce qu'ils ne se concrétisent pas sur le terrain. Donc tout ça, c'est des formes de lutte différentes, mais des formes de lutte qui se complètent.
Ce qu'il faut comprendre, c'est avoir tous les collectifs qui passent par là, c'est que le CEDRA comme bureau stop, c'est deux collectifs en fait parmi un ensemble de collectifs qui s'opposent à ce projet.
Ah oui, oui, on est quand même très nombreux maintenant, très nombreux à lutter, des composantes nombreuses à lutter vraiment contre ce projet, à la fois sur le terrain chez nous, mais aussi. Même un peu partout en France. Il y a par exemple en Bretagne, il y a un collectif qui s'appelle Bure en Ré. Je sais pas si Bure existe en Bretagne, mais en tout cas, c'est un collectif de soutien à Bure qui se trouve en Bretagne. Et il y en a d'autres ailleurs, à Dijon, etc. Quoi.
Et pour rester dans ce thème-là de comment on lutte, je vois que derrière vous, il y a une affiche pour quelque chose qui s'appelle la Manif du Futur. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de ce qu'est cet appel ou cette affiche ?
Alors, c'est parti un peu de la situation dans laquelle on est actuellement, qui est, je parlais de ligne droite, c'est-à-dire que le projet a été reconnu d'utilité publique et il est actuellement en phase d'instruction de la demande d'autorisation de création. C'est-à-dire qu'on pourrait... dans un avenir proche, peut-être fin 2026, commencer des travaux de construction, engloutir donc 7 milliards d'euros, des sommes assez considérables, pour construire toutes les installations de surface et une partie des installations souterraines, de manière à réaliser les travaux qui permettraient une phase pilote. Donc là, cette fois, non pas la phase 0, mais la phase 1 du projet, voilà, et qui permettrait de faire des essais grandeur nature avec des déchets radioactifs dans les premières galeries. Donc c'est vraiment une étape qui est pour nous cruciale. Alors elle est cruciale à deux titres, à la fois parce qu'on est en demande d'autorisation de création, et aussi parce que ça se traduit concrètement sur le terrain par des expulsions, des expropriations de la dernière centaine d'hectares que l'ANDRA ne possédait encore pas, et puis notamment de la gare de Luméville où il y a 8 hectares qui actuellement sont occupés par des opposants sur la ligne ferroviaire qui acheminerait les déchets.
Oui, parce qu'on parle du site de Bure en lui-même, mais on imagine bien que pour enfouir ces déchets, il va falloir tout un ensemble d'infrastructures autour qui sont très conséquentes et qui vont réorganiser une partie du territoire.
Alors oui, on parle de quelques 692 hectares, quelque chose comme ça. Enfin, c'est assez monstrueux. Il faut savoir que l'ANDRA possède 2000 hectares de bois, possède ou maîtrise le foncier sur 2000 hectares de bois et 1000 hectares de terre. Donc il faut imaginer que même les quelques 700 hectares concernés déjà dans un premier temps verront peut-être les installations couvrir jusqu'à plusieurs milliers d'hectares.
Et donc là, ce que vous dites, c'est que on est encore en phase donc, d'autorisation de la construction du pilote, si j'ai compris. Donc, qui n'est pas encore construit, peut-être, d'où cette référence à cette manif du futur. C'est peut-être un peu maintenant que se joue le futur de cette région.
Alors, c'est le futur de la région et c'est le futur des générations futures. C'est-à-dire que les premiers déchets de manière industrielle n'arriveraient peut-être que dans une quinzaine ou une vingtaine d'années. Mais on sait aussi qu'on condamne les générations futures à supporter les déchets du programme électronucléaire et que vouloir actuellement relancer le nucléaire, c'est une aberration totale. On ne sait toujours pas quoi faire de nos déchets.
Alors pour dire donc deux mots là, d'invitation, alors cette manif c'est où, c'est quand ?
Alors la manif c'est autour de Bure, c'est le samedi 20 septembre. Évidemment c'est une manif nationale, donc on invite tout un chacun à venir apporter son soutien et voilà. On pourra venir la veille, on pourra repartir le lendemain et on espère peut-être qu'on pourra rester. Parce qu'après tout, rester sur le territoire, eh ben, c'est faire œuvre d'utilité publique.
D'accord, très bien.